France Inter.
Aujourd'hui, sociologie du vélo, la France à travers ses guidons, raconté par
David Sayag, maître de conférence, sociologue au CIAMS, Université Paris-Saclay.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Dans la lumière des collines stéphanoises, un homme file à bicyclette, sa barbe grisonnante dans le vent. Cet homme, c'est Paul de Vivy, né en 1853, plus connu sous le nom de Velocio. À la fin du 19e siècle, alors que l'industrie fume et que les villes s'étouffent, lui choisit la voie du grand air. Il découvre que le vélo n'est pas seulement un moyen de transport, mais une manière d'être au monde. Sous sa plume, dans sa revue Le Cycliste, il invente un mot qui changera tout, le cyclotourisme. Pédaler pour le plaisir, pour la découverte, pour l'évasion, rouler non pas pour battre un record, mais pour se retrouver soi-même. Velocio, c'est un pionnier, un inventeur, un poète du pédalier. Il imagine l'un des tout premiers dérailleurs. Il crée un service de coursier à vélo. On est en 1894. Mais surtout, il écrit, il pense, il rêve d'un monde plus sobre. Il prêche la lenteur, la mesure, la beauté du geste simple et il prophétise « Ne jamais pédaler par amour propre, la bicyclette sera le cheval des humbles ». Dans un monde qui s'emballe, Velocio rappelle l'essentiel, le vélo rend libre, libre de respirer, libre de s'éloigner de la ville, libre de vivre mieux. Pour les ouvriers et les ouvrières, il devient un outil d'émancipation. Grâce à lui, on peut habiter plus loin des usines, trouver un logement sain, rejoindre la campagne sans dépendre du train ni du patron. Velocio pédale beaucoup, énormément, jusqu'à 20 000 km par an, avec des sorties de 40 heures d'affilée en Suisse ou dans les Alpes. Il en tire une philosophie du corps et de l'esprit, un art de vivre avant l'heure, fondé sur l'hygiène, le végétarisme, la sobriété joyeuse. Pour lui, la bicyclette est un instrument au service d'un idéal, une école de liberté. C'est une arme douce contre la laideur et la vitesse du monde moderne. Plus d'un siècle après sa mort, son message nous rattrape dans un monde saturé de moteurs et d'écrans. Il nous murmure encore « ralentis, respire, pédale, la route t'attend ». Bonjour David Sayag.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pourquoi ce Paul de Vivy est-il si peu connu du grand public alors qu'il est une figure fondatrice du vélo moderne ?
C'est une bonne question que je ne me suis jamais posée. En tout cas, il était, comme vous l'avez souligné, un vrai précurseur puisqu'il prenait déjà le retour à un mode de vie sobre qui jouit des beautés de la nature. Il vantait déjà les mérites de l'usage quotidien du vélo sur le corps et sur l'esprit. Donc il a été vraiment pionnier en matière de promotion du vélo, associé au voyage, à la nature, au végétarisme aussi,
oui.
Et plus largement à la sobriété. Donc il a été avant-gardiste puisqu'en 1894, il a créé un service de coursier à vélo.
Incroyable. David Sayag, vous qui publiez aux éditions de La Découverte, une sociologie du vélo, c'est un livre qui montre comment la bicyclette n'est pas qu'un moyen de transport, mais c'est aussi une sorte de miroir finalement des rapports sociaux, et puis en retour, un levier qui recompose nos vies quotidiennes. On parle beaucoup du retour du vélo d'ailleurs depuis quelques années, mais vous dites qu'avant de revenir, il a surtout traversé toutes les époques et tous les milieux. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'en faire un objet de sociologie ?
Alors, parce que d'abord, c'est l'objet principal de mes travaux depuis plus de 12 ans. Donc c'est déjà une bonne raison. Mais également parce que malgré la place centrale qu'a le vélo aujourd'hui dans le débat public, malgré le fait qu'il se situe à la croisée des principaux enjeux actuels, donc économiques, écologiques, sanitaires, malgré le fait qu'il traverse les parcours de vie de la plupart des Français et Françaises, ces dimensions sociologiques restent méconnues. Et donc, comme tous les formats poche de la collection Repères de la Découverte, le but est de formuler des repères, de déconstruire certaines idées reçues, d'alerter aussi contre certains écueils. Il y a pas mal d'idées reçues. Aussi, pourquoi pas, de proposer des pistes de réflexion pour l'action publique.
Donc il y a tout ça dans cette histoire du vélo, parce que c'est un objet qui raconte la société avant tout, hein, c'est ce que vous montrez dans le livre. Hein.
C'est ça, le vélo il est un miroir, il est un reflet, on peut dire qu'il est un révélateur des transformations sociales, d'abord parce que son histoire met en lumière l'évolution des rapports sociaux, notamment les rapports de classe, les rapports de genre. Le vélo a d'abord été l'apanage de la bourgeoisie masculine, donc révélant des inégalités d'accès au progrès technologique et aux loisirs, selon la classe sociale et le genre, puisque les femmes étaient exclues des clubs. Dès la fin du 19e siècle, le développement des courses cyclistes a représenté pour les ouvriers une opportunité limitée, mais quand même réelle, d'ascension sociale, sur le plan économique en tout cas. Dans les années 1930, le vélo est devenu pour la classe ouvrière un puissant symbole de liberté et d'accès aux loisirs également. Dans un contexte d'amélioration des conditions de travail et d'accès aux congés payés.
Donc c'est ça, il y avait la hausse des salaires à ce moment-là, la baisse des prix et effectivement les congés payés. Donc les ouvriers s'emparent du vélo à ce moment-là, massivement.
C'est ça, il est devenu accessible. Et donc à ce moment-là, le vélo tandem a même été un emblème, un véritable emblème de la civilisation des loisirs. Et lorsque les classes aisées se sont massivement tournées vers la voiture, notamment dans les années 1950, le vélo est devenu l'objet de première nécessité des ouvriers qui ne pouvaient pas s'offrir une voiture. Donc il est devenu un symbole de pauvreté, un obstacle au progrès qui était alors incarné par l'automobile. Et durant les années 1960, sa pratique comme mode de déplacement s'est complètement effondrée pendant que le cyclisme sur route a peut-être connu son apogée, donc là, révélant une intensification des enjeux financiers du sport, favorisé par la démocratisation de la télévision, par la systématisation du dopage également.
On va y revenir, hein. On va arriver aux années 60. Je voudrais juste qu'on refasse un petit tour en arrière sur le début du XXe siècle, parce qu'il y a l'époque aussi du premier Tour de France, qui a été créé en 1903, et vous montrez que cette course a joué un rôle central dans la construction justement d'un imaginaire national autour du vélo. Qu'est-ce que ça représente à ce moment-là pour la société française ?
C'est une question qui mérite d'être traitée en beaucoup de temps. Ce que ça représente, d'un point de vue sociologique, c'est l'institutionnalisation du sport. C'est-à-dire que le vélo a beaucoup œuvré pour l'institutionnalisation du sport moderne, pour la médiatisation du sport moderne, notamment également. Bon, et la marchandisation, du coup. Le vélo n'est pas qu'un mode de déplacement écologique.
C'est aussi une vitrine de la consommation, en fait, c'est ça ce que vous expliquez ?
Oui, voilà, tout à fait.
Surtout à partir donc des années 30, hein, avec la caravane publicitaire, ça arrive à ce moment-là. On va écouter un sujet, on va revenir aux années 60 que vous évoquiez il y a un instant, un sujet de l'ORTF avec un poisson d'avril qui avait été réalisé dans les rues de la capitale où le journaliste de l'époque avait fait croire à l'interdiction de la circulation automobile à Paris au profit de la bicyclette, et voilà ce que les passants répondaient.
Vous avez déjà fait la bicyclette ?
Oh oui, et puis j'en refais avec plaisir s'il n'y avait pas tant de voitures.
Moi je suis tout à fait pour, c'est un instrument très très pratique, je pense que pour une femme c'est l'idéal, pour aller chez son coiffeur, pour aller faire ses petites courses, vous pouvez absolument plus circuler place Vendôme, vous pouvez plus stationner, avec une bicyclette c'est très très facile.
Monsieur, est-ce que vous êtes au courant d'un projet qui consiste à réserver certains quartiers à l'usage des cyclistes ?
Oui, j'ai entendu parler de ce projet. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à arracher une bicyclette et puis je m'exerce tous les matins et le soir pour rentrer chez moi.
Vous êtes contre ce projet ?
Absolument, c'est un retour pour moi de 50 ans en arrière. Vous comprenez, la bicyclette, c'est fini, c'est fini.
Voilà, 1967 sur l'ORTF. Pourtant, justement, à la fin des années 60, à peu près à la même période, c'est ce que vous racontez, des militants écologistes réinventent le vélo comme un instrument de résistance ? C'est ce qui se passe ?
Alors je ne sais pas si c'est une réinvention, mais en tout cas oui, il a été le vélo a été et toujours d'ailleurs un symbole fort du mouvement écologiste. Oui.
Ouais, il y a le terme vélorussion, c'est ça qui émerge à ce moment-là.
C'est ça.
Donc c'est vraiment le changement des mentalités quand même.
Alors pas de toutes les mentalités, mais en tout cas il sert de support à des revendications écologistes. Oui. Ouais.
Dans un contexte de critique de la société de consommation, justement.
Exactement, et plus largement, souvent anticapitaliste.
Ouais. On a l'impression d'assister en ce moment à un retour en grâce spectaculaire du vélo, notamment dans les grandes villes. Est-ce que c'est un vrai tournant, selon vous, David Sayag, ou est-ce que c'est un phénomène seulement, justement, de centre-ville ?
Alors, C'est un vrai phénomène, mais qui effectivement se concentre essentiellement dans les grands centres des grandes métropoles, alors même que depuis des décennies, là, la pratique du vélo tend à diminuer en milieu rural et en périphérie. Donc oui, c'est un phénomène réel. L'essor du vélo est considérable, mais pas partout.
Ouais. Donc ça explose dans des grandes villes comme Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg, mais ouais. Ça reste marginal ailleurs, il ne faut pas se tromper là-dessus, hein.
Voilà, quand même dans la plupart des grandes villes, dans les centres-villes en tout cas, ça oui. augmente. C'est surtout en périphérie et en milieu rural que là, depuis des décennies, le constat est plutôt à la baisse. Mmh. Ce qui fait que, au final, ce qu'on appelle la part modale du vélo, c'est-à-dire la part des déplacements réalisés à vélo parmi l'ensemble des déplacements, elle tend quasiment à stagner en fait depuis une dizaine d'années.
C'est ça.
Alors
ouais.
même quand on habite en ville, en métropole, on a l'impression que il y a un essor considérable. Finalement, à l'échelle nationale, à l'échelle du pays, ça a plutôt tendance à stagner.
2 à 3% des déplacements se font à vélo en France, contre 20% aux Pays-Bas, par exemple. Alors c'est évidemment, ça. On prend le pays où c'est le plus développé, mais ça montre quand même que notre pays reste très en retard.
Oui, en tout cas, si on prend l'échelle européenne. Alors aujourd'hui, on est pas à 2, on est plutôt entre 3 et 4%, je pense, de part modale.
Ouais.
Mais on reste vraiment à la traîne. La moyenne en Europe, c'est à peu près 8% de part modale. Et effectivement, ouais. il y a des pays...
Alors même qu'on a inventé le Tour de France, hein, encore une fois.
C'est ça. Et peut-être que par rapport au vélo en tant que mode de déplacement, le Tour de France peut constituer parfois un obstacle parce qu'il véhicule l'image d'un sport qui est notamment masculin, d'un sport oui. qui nécessite des efforts considérables, des efforts intenses. Et donc ça constitue notamment un obstacle à la pratique des femmes.
Est-ce que on y reviendra évidemment sur la question du genre, est-ce que la pandémie de Covid-19 a été un tournant réel pour le vélo?
Oui et non. Dans la mesure où oui, ça a été un accélérateur, mais c'était un essor qui avait déjà débuté. Si on prend par exemple les courbes de progression du vélo assistance électrique, souvent il y a un écueil qui est de penser que le vélo assistance électrique a connu un essor à partir du Covid, mais ouais. l'essor avait déjà commencé un petit peu avant. Ça a permis d'accroître la pratique des femmes, beaucoup. Mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'était essentiellement pour pouvoir composer avec une augmentation de leur charge de travail et de leur charge domestique. Donc voilà, c'est une des idées reçues selon laquelle le vélo serait toujours nécessairement émancipateur pour les femmes. C'est une idée à déconstruire.
Aujourd'hui, on parle du système vélo. Ça veut dire quoi exactement ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme ?
Alors, le système vélo, c'est un concept qui, à partir duquel, on fait des constats à travers la littérature. On constate que pour réellement développer le vélo dans un territoire, on ne peut pas se contenter de construire des aménagements cyclables. C'est tout un système qu'il faut mettre en place de manière simultanée.
Oui.
Donc, à la fois en jouant sur les aménagements, mais en jouant également sur la formation, sur l'éducation, sur la logistique, sur la réparation, sur la finance, c'est tout un système de société à penser pour développer le vélo.
David Sayag, aujourd'hui tout le monde semble redécouvrir la bicyclette, mais pas pour les mêmes raisons. Alors qui pédale vraiment? Qu'est-ce que ça dit de nous? On va en parler dans un instant, c'est l'objet de votre sociologie du vélo qui paraît aux éditions de La Découverte. Et puis bien sûr nous attendons vos messages et vos réactions sur la page de La Terre au Carré.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré.
Ce qu'on demande surtout, c'est la régularisation de la circulation dans Paris, la mise à disposition de vélos communautaires pour les Parisiens.
Un bus, ça pollue et ça rend nerveux.
On commence à avoir assez des voitures qui nous polluent, qui brûlent les feux rouges, parce que l'énergie musculaire, c'est la moins chère. Parce que le pétrole, on s'en fout. L'énergie, c'est nous. Le pétrole,
on s'en fout. L'énergie, c'est nous.
Aujourd'hui, quand on proteste contre l'implantation des centrales nucléaires, c'est en vélo. Qu'on manifeste, c'est en vélo. Quand on défend l'environnement, c'est en vélo. Du coup, et c'est sans doute un signe des temps, le vélo est devenu le symbole d'une sorte de paradis perdu.
Voilà un petit florilège des années 70 avec cette archive de l'INA. Retour vers l'info. C'était en 2023. David Sayag, vous qui publiez aux éditions de La Découverte une sociologie du vélo. Alors, qui fait du vélo? Comment? Pourquoi? Quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'un Français sur deux possède un vélo. C'est bien ça? Mais que très peu l'utilisent au quotidien. Pourquoi ce décalage entre la possession d'un vélo et sa pratique?
Alors, oui, alors un ménage sur deux possède un vélo. Quand on s'intéresse au vélo d'adulte, c'est un peu moins. Quand on s'intéresse au vélo en état de fonctionnement, c'est encore moins.
Ouais.
Donc effectivement, c'est déjà ça constitue un frein. Donc votre question, c'est quels sont les autres freins, c'est ça?
Oui, alors c'est ça, parce qu'il y a ce décalage entre le fait quand même que beaucoup de gens possèdent un vélo et que moins de personnes l'utilisent, parce que vous dites effectivement que beaucoup sont inutilisés, mal entretenus ou pas assez sûrs pour être utilisés. Hein.
C'est ça. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas seulement le matériel. Quand on interroge qui sait faire du vélo, la simple question,
oui.
Il y a quand même 7% de la population française en âge de faire du vélo qui déclare ne jamais avoir appris à faire du vélo.
Mm-hmm.
Et 28% quand même qui déclare une faible maîtrise du vélo, sachant que c'est du déclaratif. Donc, la réalité est probablement, le chiffre est encore plus important. Hein. Donc, c'est pas rien à prendre en compte. Donc, ça déconstruit aussi, ça participe à déconstruire aussi l'idée reçue selon laquelle il suffirait de construire des aménagements cyclables. Si 28% de la population en âge de faire du vélo ne maîtrise pas vraiment le vélo,
ouais.
C'est un véritable frein.
Le vélo, ça reste quand même associé au loisir au week-end plus qu'à la mobilité quotidienne. C'est ce qui explique aussi peut-être ça?
Alors oui, en France, si on parle en nombre de pratiquants, c'est-à-dire que le vélo concerne surtout des cyclistes récréatifs, sportifs. Maintenant, si on parle en termes de nombre de trajets, sachant que les cyclistes utilitaires se déplacent au quotidien, souvent. Là, en termes de trajet, le vélo utilitaire représente deux tiers des trajets. Donc, tout dépend si on raisonne en termes de nombre de pratiquants ou en termes de trajets.
Ouais. David Sayag, justement, en quoi le vélo est devenu aussi une forme de distinction sociale? Vous l'expliquez bien, ça, dans votre ouvrage.
Alors, distinction sociale, bon, déjà, ça permet de parler de l'influence du niveau de diplôme sur la pratique. Plus on est diplômé, c'est ça la tendance, hein, et plus on est susceptible de pratiquer le vélo.
Ouais.
Et donc, il y a une forte injonction à pratiquer le vélo aujourd'hui, donc on en retire une sorte de privilège, en tout cas de reconnaissance sociale, parce qu'on est en mesure de répondre aux injonctions actuelles, qui sont légitimes, en tout cas légitimées par les classes dominantes. Et ces injonctions, c'est à être actif, physiquement actif pour ses déplacements. Donc la marche et le vélo en font partie. C'est aussi réduire son impact écologique, donc ses nuisances. Et donc les populations qui sont les plus à même aujourd'hui de répondre à ces injonctions sont les classes dominantes, notamment du point de vue du capital culturel.
Mmh.
Même si, si on creuse un petit peu, les classes dominantes n'ont pas des pratiques plus écologistes. Voilà. Voilà. En tout cas, elles sont plus à même de répondre aux injonctions sanitaires
oui.
actuelles.
Le vélo, donc, est valorisé quand il est choisi, hein, c'est ce que vous expliquez aussi. Et donc, pour les classes populaires, ça reste un signe de contrainte, le vélo?
Alors, ouais, plus on est en milieu populaire, et plus le vélo va avoir tendance à être associé à l'enfance, mais également à la pauvreté parfois, notamment pour les personnes issues de l'immigration de pays où on ne fait du vélo que parce qu'on n'a pas de voiture. Et il y a quelque chose de ringard plus généralement. Oui, plus on est en milieu populaire, plus le vélo, en tant que mode de déplacement en tout cas, est perçu comme quelque chose de ringard. Alors c'est en train de changer lentement, mais c'est toujours un constat. J'ai fait ma thèse sur... les pratiques pendant l'adolescence, parmi les adolescents de milieu populaire, c'est très rare d'avoir un adolescent qui rêve d'aller au travail à vélo.
Ouais. Ouais. David Sayag, ce décalage entre les différentes classes sociales, on le retrouve aussi dans la question du genre, parce que les femmes pédalent moins que les hommes. Pourquoi cet écart persiste encore aujourd'hui?
Alors, merci de me poser cette question. Alors, les femmes pédalent moins que les hommes parce que, je l'ai dit, hein, le vélo reste associé, en France en tout cas, à un sport masculin, mais il est aussi associé à un mode de déplacement dangereux. Il est aussi associé à un mode de transport autoréparable, donc très associé à la mécanique. Et il se trouve que les femmes, de manière générale, sont davantage socialisées, c'est-à-dire elles sont davantage sujettes à des injonctions qui les incitent donc, à adopter tel ou tel comportement, à penser de telle ou telle manière. Donc elles sont davantage socialisées à éviter de prendre des risques physiques, à éviter les efforts intenses.
Ou à devoir réparer un vélo, c'est ça aussi ?
Exactement, à éviter les activités avec une charge trop mécanique, à éviter de se déplacer seul également, à éviter de s'aventurer hors des espaces connus, à éviter de stationner dans l'espace public. Donc il y a tout un tas d'injonctions qui concernent notamment les femmes et qui s'avèrent être des freins considérables à leur pratique.
Ouais. On va écouter un échange effarant, vous allez le voir, entre le coureur cycliste Marc Madio et la cycliste multi-championne Jeannie Longo. C'était en 1987, moment d'anthologie, si je puis dire.
Une femme sur un vélo, c'est moche. Ridicule et laide sont-elles. Vous avez même ajouté, Marc Madio, si mes sœurs faisaient du vélo,
oui, si
je les renierais.
Bizarre, vous l'avez dit.
Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche. Voir une femme sur un vélo, c'est moche. C'est mon opinion, ça n'engage que moi.
Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. De toute façon, il faut respecter leurs activités. On s'exprime sur un vélo, on s'exprime dans le sport. Il n'y a pas de sport qui convienne mieux à des femmes qu'à des hommes.
Voilà, ça brûle les oreilles hein, quand on entend ça aujourd'hui. Et c'était pourtant il n'y a pas si longtemps, c'était en 1987. Donc le coureur cycliste Marc Madio et la cycliste Jeannie Longo, tout ça devant des caméras et des micros. Hein, c'est-à-dire qu'ils parlent tout à fait librement, sans contrainte. Et on voit la perception en fait, des femmes sur des vélos.
Oui, ça en dit beaucoup sur le milieu sexiste qui est le sport en général hein, et le monde du cyclisme en particulier. Jeannie Longo subit ce que certaines sociologues ont appelé un procès de virilisation, c'est-à-dire qu'en adoptant certaines pratiques masculines, entre guillemets, on adopte des codes masculins, on acquiert une forme de musculature. Et on s'expose à ces procès donc de virilisation de la part des hommes qui veulent que les choses restent à leur place.
Voilà. David Sayag, vous parlez d'un apprentissage sexué du vélo. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire là encore pour poursuivre un petit peu là-dessus? Parce que d'un point de vue de la sociologie, c'est assez édifiant là aussi ce qu'on voit. Hein.
Oui, un apprentissage sexué du vélo comme à peu près toutes les activités physiques et sportives. Hein, c'est-à-dire qu'on a tendance à davantage inciter les garçons à sortir, à se dépenser, à se défouler. On a tendance à davantage protéger les filles.
Les pères enseignent aussi plus le vélo que les mères ?
Tout à fait. C'est un apprentissage qui passe notamment par le père. Et pas seulement l'apprentissage du vélo, également l'apprentissage de la mécanique du vélo, savoir réparer une roue de vélo. Ça passe essentiellement par le père et ça participe à renforcer le fait que le mode de transport a une valence masculine, comme le sport d'ailleurs.
Ouais, et donc ça renforce des représentations très genrées hein, de l'espace public à travers le vélo par exemple. Est-ce que le vélo électrique a changé la donne? Est-ce qu'il a démocratisé la pratique ou pas?
Alors, démocratiser d'emblée, non, parce que ce sont des vélos qui sont coûteux, qui sont plus coûteux, nettement plus coûteux que les vélos en moyenne. Et donc, ils sont essentiellement possédés par des classes supérieures.
Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un capital économique.
C'est ça.
Pour pouvoir y accéder.
Exactement. Alors, démocratiser, peut-être, on peut quand même nuancer ce que je viens de dire, dans le sens où il y a une répartition femmes-hommes plus équilibrée, si on considère que le vélo assistance électrique. Les femmes l'adoptent davantage, mais ça rejoint ce que j'ai dit, c'est aussi parce qu'elles sont moins, justement, socialisées à fournir des efforts intenses. Il y a la question de la transpiration, des tenues vestimentaires, il y a tout un tas d'enjeux derrière.
Ouais.
Et puis, il y a aussi plus d'hommes qui sont réticents à dire qu'ils ont besoin d'une assistance, tout simplement.
Les pères, les collègues, les amis, vous dites que ça joue un rôle central aussi dans la diffusion de la pratique hein.
Tout à fait, et à peu près à tous les âges, d'ailleurs, ça peut jouer un rôle incitatif, mais pas seulement, on peut bénéficier de certains conseils, de certaines astuces, de certaines applications, de certaines combines, et donc forcément, ça permet de parfois d'adopter la pratique du vélo, et d'ailleurs, dans les entretiens que je mène pour mes travaux, souvent je remarque que les cyclistes adorent se vanter du fait qu'ils ont réussi à convertir des personnes au vélo. Donc je pense que les cyclistes, en termes de promotion du vélo, sont peut-être les acteurs les plus efficaces de la promotion du vélo.
Donc l'effet contagieux est revendiqué en tout cas par ceux qui pratiquent.
Oui, c'est ça. Et donc l'influence, en tout cas, elle se fait à tous les âges, hein, que ce soit un frère ou une sœur, que ce soit l'influence des pères dans le monde du travail, que ce soit des colocataires, ça joue un rôle vraiment considérable, c'est vrai.
David Sayag, on vient de parler donc des pratiques, des inégalités, des symboles. On va voir dans un instant comment le vélo devient aussi un terrain politique. Et puis vous allez répondre au message, au témoignage, j'imagine, vous qui faites du vélo ou qui n'en faites pas d'ailleurs. Ça nous intéresse aussi de vous entendre. Vous pouvez passer par les notes vocales sur l'appli Radio France et puis également sur nos réseaux sociaux.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Ça va ?
Ah ouais, monsieur Pogodin ?
Ça fait combien de bornes depuis le début de l'année ?
12 000, là.
Des pignons fixes ?
Ouais. J'ai fait 1000 bornes sur un 42-16.
Il n'y a rien de mieux pour tourner les pattes. Tu vas loin comme ça ?
Je rentre à la maison, monsieur Pogodin.
On va faire un petit bout de route ensemble.
Ouais, si vous voulez.
Extrait d'un film qui s'appelle Le Vélo de Ghislain Lambert. C'était en 2001 avec Benoît Poulvorde et José Garcia. Je ne sais pas si vous en souvenez, David Sayag, vous ne l'avez pas vu. N'avez pas vu tous les films consacrés au vélo pourtant.
Oui, pas du tout.
Vous qui êtes sociologue et qui publiez donc cette sociologie du vélo aux éditions de La Découverte. Le vélo, vous l'expliquez aussi, qui peut devenir un instrument politique et symbolique parce que si faire du vélo, c'est bon pour la santé et la planète, vous dites aussi qu'il est devenu un instrument de gouvernement des corps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Oui, un instrument de gouvernement des corps, ou on pourrait dire de gouvernement des conduites. Le vélo est un instrument qui est aujourd'hui au centre des politiques publiques de prévention de la santé par l'activité physique. On a eu d'autres formes d'illustration pendant la crise du Covid-19. Il a été présenté comme un geste barrière efficace contre la contamination donc, par le virus du Covid. Donc il peut vraiment être utilisé pour gouverner les comportements des gens en termes de santé. Notamment, mais pas seulement, est également pour en faveur de l'écologie, oui.
Ouais, donc ça devient un marqueur moral, autant qu'un mode de transport.
Oui, marqueur moral, ça rejoint votre question sur la distinction sociale par le vélo. C'est-à-dire que le vélo, quand on l'adopte aujourd'hui, notamment en métropole, enfin dans les grandes villes, ça permet d'acquérir une certaine forme de légitimité, de reconnaissance sociale. Et donc, certains sociologues parlent de citoyenneté, citoyenneté morale acquise à travers cette pratique-là. En fait, le vélo, contrairement à d'autres pratiques écologiques, comme le tri des déchets, le vélo, c'est quelque chose de visible. Donc, parfois, on ne l'adopte pas forcément pour des raisons écologiques, mais on se donne bonne conscience, et surtout, c'est une forme de vitrine, on adopte une mobilité légitime.
Ouais, mais ça change notre rapport au monde, justement, puisque vous parlez d'écologie. Est-ce que pédaler, ça modifie beaucoup le regard ?
Ah oui, complètement. C'est ce que je montre là dans le dernier chapitre, en quoi le fait de faire du vélo nous façonne, nous transforme. Donc le vélo, oui, façonne nos rapports au corps, nos rapports au sport, nos rapports à la santé, nos rapports au temps, à l'espace et également à l'écologie.
Ouais. Est-ce que les politiques actuelles vont dans le bon sens ? Parce qu'il y avait ce fameux plan vélo 2023-2027 qui a été abandonné. Ça, c'est quand même une déception extrêmement forte.
Alors, je suis pas là pour juger de ça. Moi, j'essaie d'avoir une position, enfin la position la plus neutre possible. Mais oui, bien sûr que pour les militants et les personnes dont c'est le métier de promouvoir le vélo, c'est une déception très forte. Un plan qui est annoncé en 2023, qui est censé durer sur la période 2023-2027, qui est abandonné dès 2024, alors qu'il a annoncé un investissement sans précédent. Ouais. Forcément, c'est décevant, oui.
Pour qu'une politique vélo, d'ailleurs, soit efficace, il faut faire quoi, concrètement, David Sayag ?
Alors ça rejoint votre question de tout à l'heure sur le système vélo. Justement, ouais. On ne peut pas se contenter de mettre en place des aménagements cyclables. Il faut penser conjointement et simultanément les questions de la réparation, de la logistique, de l'éducation, de la formation, de la communication, de la finance, etc. C'est tout un système. On ne peut pas agir sur un seul levier en même temps, en fait.
Ouais. Donc c'est réduire la vitesse, les volumes de voitures, la sécurisation. On va voir d'ailleurs dans les messages des auditeurs et auditrices que la question de la sécurité revient énormément. En tout cas, c'est vrai que beaucoup voient dans la montée du vélo un signe d'écologie positive, hein, même si d'autres, par ailleurs, voient une forme de culpabilisation collective.
Oui, alors il y a deux questions, là, une sur la sécurité, une sur... Pour rebondir sur la sécurité, oui, ça constitue un des principaux freins. Il n'y a pas seulement le savoir rouler, dont j'ai parlé tout à l'heure. Effectivement, le vélo reste perçu comme un mode de déplacement dangereux, et ce n'est pas seulement de la perception, c'est-à-dire que à vélo, concrètement, quand vous êtes cycliste, vous avez 8 fois plus de chances d'être tué sur la route, enfin par heure passée sur la route, qu'un automobiliste ou qu'une automobiliste. Mmh. Donc c'est pas seulement de la perception, c'est réellement plus dangereux.
Ouais. Et donc entre le signe d'écologie positive et ce que je vous disais hein, sur le fait d'être culpabilisé aussi, où est-ce qu'on met le curseur dans tout ça ?
Je comprends pas bien l'écologie positive.
Certains voient justement la montée du vélo comme un signe d'écologie positive, le fait d'en faire, alors que d'autres ressentent beaucoup de culpabilité par rapport à cette mobilité-là.
Oui, alors peut-être que, enfin, en tout cas, ce que moi, ça me fait penser au fait que il y a une idée reçue sur le fait que c'est des idées, enfin, c'est des penchants écologistes qui vont nous pousser à faire du vélo. La réalité, c'est plutôt que le vélo va avoir tendance à transformer notre rapport à l'écologie. C'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que la pratique du vélo, c'est pas forcément facile à comprendre, mais elle peut modifier, oui, notre rapport à l'écologie.
David Sayag, on va passer aux questions parce qu'elles sont très nombreuses pour vous. Et nous allons écouter un premier message vocal, celui de Gwenaëlle, reçu sur l'application Radio France.
Bonjour France Inter, Gwen au téléphone. Je viens de me mettre au vélo depuis mi-juillet, j'ai 57 ans et je suis super heureuse. Je peux prendre les sens interdits, je peux prendre parfois les routes barrées de travaux, puisque les vélos sont autorisés aussi, légalement j'en sais rien. Mais en tout cas, je me sens beaucoup plus libre et j'ai longtemps hésité à faire du vélo. Merci.
Ah, ça, c'est formidable de commencer tard.
Hein. Oui, oui. C'est le cas de quand même pas mal de personnes. Et le vélo à assistance électrique permet de plus en plus ça. Il y a une population qui est un peu plus avancée en âge quand on considère le vélo à assistance électrique. Et effectivement, la pratique du vélo confère souvent un grand sentiment de liberté.
Ouais. Et donc, il n'y a pas d'âge pour s'y mettre, effectivement.
C'est ça.
Ouais. Hugo, à 59 ans, il nous envoie ce message de Levallois. Il nous dit, voilà, j'ai la maladie de Parkinson qui me gêne très souvent pour marcher. En revanche, je pédale sans problème mon vélo que j'utilise avec plaisir tous les jours. Ça me permet de maintenir mon autonomie, de sortir, de faire mes courses, me balader et de lutter contre les effets de la maladie. Vive le vélo, dit-il.
Oui, ça me fait penser au fait que je déplore dans le livre le manque de travaux sur les enjeux de la pratique du vélo pour les personnes en situation de handicap. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a vraiment pas de travaux là-dessus, c'est un vrai angle mort. Voilà, ça me fait penser à ça.
On va écouter Ahmed qui nous a envoyé un message.
J'aime beaucoup le vélo, mais quand je me promène dans Paris, en tant que piéton, j'ai plus peur des cyclistes que des voitures.
Voilà, la peur, la sécurité, ça revient énormément dans les messages, David Sayag. Un sur deux, quasiment, évoque cette thématique.
Voilà, il faut vous dire que quand vous êtes à vélo, vous êtes quand même plus rapide et que si vous avez peur des piétons et des piétonnes, les piétons et les piétonnes ont probablement peur de vous également parce que vous êtes une menace. Le rapport de force n'est pas tout à fait équilibré comme il n'est pas équilibré entre les voitures et les vélos. Voilà, donc il y a des conflits d'usage parce qu'il y a une multiplication des modes de déplacement, des nouveaux modes de déplacement urbains.
Oui.
Donc inévitablement, il y a des conflits d'usage, il y a des vitesses qui sont différentes.
C'est la ville qui doit se réorganiser en fait, hein, complètement. Hein.
Exactement, ça nécessite de repenser la manière dont on aménage les villes, oui, c'est vrai.
Est-ce qu'on va parvenir, selon vous, à construire des villes apaisé, où tout le monde pourra user de sa mobilité comme il le souhaite, sans que ça génère trop de conflits?
Ce serait trop spéculatif de ma part de répondre à cette question. Est-ce qu'on va y parvenir? J'ai l'impression, en tout cas, si je me base sur mes observations là en tant que citoyen, donc je pose la casquette de sociologue, j'ai l'impression que quand même certains quartiers dans les métropoles, ça pèse. Voilà, c'est mon impression.
Bon, écoutez, j'espère que tout le monde la partage, mais c'est à discuter en tout cas. Hervé nous dit le sujet de la sécurité qui fait que le premier frein à l'utilisation du vélo, c'est ça. Et que la trop forte proximité entre les voitures et les bicyclettes dans ce pays où la voiture a régné en maîtresse depuis l'après-guerre, c'est d'abord, selon moi, le premier frein. Parce que c'est vrai qu'on a peu parlé de la place de la voiture, mais ça raconte aussi l'histoire du vélo en France.
Tout à fait. On a œuvré pendant des décennies et des décennies, pour ne pas dire pendant un siècle. On a tout pensé et aménagé pour le système automobile. Et donc ça, aujourd'hui, le fait que la marche et le vélo reprennent un peu de place, ça crée des frustrations qui alimentent les tensions et qui créent des conflits d'usage.
Un nouveau message, une note vocale, celle de Claude, reçue à l'instant sur l'application Radio France.
Je m'appelle Claude et mon enfance a été pourrie par le vélo parce que nous étions pauvres. Nos parents nous traînaient en vélo, alors on défilait sur les routes à la queue leu-leu. Et donc, c'était un outil des pauvres à l'époque. Et donc, les riches avaient la bagnole. Et alors, aujourd'hui, je trouve que le vélo est un outil de riches. Et le monde a bien changé.
Le monde s'est inversé, si on écoute Claude.
Oui, c'est une façon
David
de...
Sayag.
Oui, c'est une façon de le résumer, effectivement. À nouveau, on constate que le vélo est un mode de distinction sociale par les classes urbaines, on va dire. C'est vrai.
Alexia nous envoie ce message. Est-ce que les femmes prennent moins le vélo parce qu'elles gèrent plus les enfants? C'est quand même un mode de transport peu adapté pour transporter une famille, même si on voit des vélos cargo dans certaines grandes villes.
Et oui, donc ça dit quelque chose, ça dit que c'est assez culturel aussi, on n'est pas encore habitué à ces vélos cargo, alors qu'aux Pays-Bas, les femmes qui sont beaucoup plus habituées à ce type de vélo n'ont aucun problème à transporter leurs enfants, leurs courses. Voilà, après, c'est pas le principal frein, hein, le fait,
pour les femmes,
le fait de devoir s'occuper des enfants, même si bien sûr c'est un frein qui est non négligeable. Mmh. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que parce qu'elles s'occupent davantage des enfants, parce qu'elles s'occupent davantage des tâches domestiques, elles s'occupent davantage des personnes malades, des personnes âgées, les femmes ont des chaînes de déplacement particulièrement complexes qui ne sont pas faciles à gérer à vélo. C'est pas seulement le fait de s'occuper des enfants. Voilà.
Caroline nous parle de Maxime Rey, un influenceur de Carcassonne, parti faire le tour du monde depuis 3 ans. On voit ce phénomène grossir sur les réseaux sociaux, dit-elle. Qu'est-ce que ça traduit, toutes ces personnes qui font le tour du monde à vélo? Très rapidement.
Parce que moi, ça traduit le fait que le vélo reste un symbole de liberté. Je crois que c'est un... Oui, c'est ça.
Et Cléa demande enfin pour terminer, est-ce que votre invité est venu à la radio à vélo aujourd'hui, David Sayag?
Ah oui, en Vélib, je ne sais pas si ça fait de la pub, désolé si c'est le cas. Mais
bon, vous êtes venu à vélo. Tout va bien, on peut renvoyer sur votre ouvrage Sociologie du vélo, c'est un livre qui paraît aux éditions de La Découverte dans la collection Repères Sociologie. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci beaucoup
aujourd'hui dans La Terre au Carré.